diffusion de nos programmes va maintenant se poursuivre en français.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission du samedi, une émission présentée cette semaine par Anna Kubishta. Au programme cette semaine, du théâtre, de la littérature et de la linguistique. Une fois n'est pas coutume, ce n'est d'ailleurs pas moi-même qui vous propose la rubrique culturelle du samedi. Je vous propose néanmoins de réécouter en ce début d'émission l'entretien que Magdalena Rosenkova avait réalisé en octobre dernier avec l'écrivaine française Noël Châtelet. Si hélas aucun de ses romans n'a été pour l'instant traduit en tchèque, les Pragois ont pu découvrir l'une de ses œuvres grâce au studio Saint-Germain, la scène expérimentale du Rock Café à Prague, rue Národní. En octobre 2010, ce dernier a présenté La femme coquelicot, une adaptation théâtrale du roman éponyme de Noël Châtelet, venu à cette occasion à Prague. La femme coquelicot, en tchèque Jena Volčimák, est le monologue intime d'une actrice interprétée dans le spectacle Pragois par Hanna Matsuková. La pièce raconte l'histoire d'une passion entre Marthe, une dame de 70 ans, et Félix, un monsieur de 90 ans. L'amour tardif est un des sujets délicats, voire tabous, que Noël Châtelet aborde dans ses écrits, un des sujets dont Magda Rosenkova et Noël Châtelet ont parlé au café du studio Saint-Germain.
Culture sans frontières. Magdalena Rosenkova.
Je pense que vraiment dans tous les pays, en tout cas de cette Europe, mais pas seulement, c'est le cas aussi au Brésil, et sans doute maintenant en Chine et en Russie, d'un diktat de l'apparence et d'une course effrénée vers la jeunesse. Avec évidemment l'inconvénient de laisser sur le côté de la route les personnes dont on juge qu'elles sont plus dans la course, les vieilles personnes. Et moi, c'est vrai que je mène un combat personnel contre ce jeunisme exacerbé, et j'essaie de montrer de la vieillesse une autre image, de sortir justement des archétypes, d'essayer de faire comprendre que il n'y a pas d'âge pour aimer, bien sûr, et qu'en plus la vieillesse est peut-être un moment aussi délicieux qu'on a à vivre. Évidemment, si on n'est pas malade, si on est en bonne santé, parce que c'est quand même le lieu de la liberté.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de Culture sans frontières. Rencontre aujourd'hui avec Noël Châtelet, romancière, essayiste, ancienne professeure d'université, par ailleurs la sœur de l'ancien premier ministre français Lionel Jospin, mais surtout une femme engagée. Si hélas aucun de ses romans n'a été pour l'instant traduit en tchèque, les Pragois ont désormais l'occasion de découvrir l'une de ses œuvres grâce au studio Saint-Germain, la scène expérimentale du Rock Café à Prague, rue Národní. Début octobre, ce dernier a présenté « La femme coquelicot », une adaptation théâtrale du roman éponyme de Noël Châtelet, venu à cette occasion à Prague. « La femme coquelicot », en tchèque « Jena Volčimák », est le monologue intime d'une actrice dans le spectacle pragois interprété par Hanna Matsuková. La pièce raconte l'histoire d'une passion entre Marthe, une dame de 70 ans, et Félix, un monsieur de 90 ans. L'amour tardif est un des sujets délicats, voire tabous, que Noël Châtelet aborde dans ses écrits. Un des sujets dont nous avons parlé au café du studio Saint-Germain.
À l'origine de cette pièce de théâtre, La femme coquelicot, il y a votre roman. Est-ce qu'en l'écrivant, vous l'avez imaginé au théâtre ou ça ne vous est pas venu à l'esprit ?
Ah non, pas du tout. Jusque-là, je n'avais jamais imaginé écrire pour le théâtre. Et puis, les choses se sont précipitées. Et un jour, il y a un jeune homme qui est venu me voir, qui avait l'âge de mon fils, et de avoir 37 ans à l'époque. Et il m'a dit, voilà, j'ai envie de monter au théâtre La Femme Coquelicot. J'ai une actrice magnifique et je sens ce texte, je veux le faire, etc. Et est-ce que vous me faites confiance? J'ai dit, bien sûr, je fais toujours confiance aux jeunes. Et il a fait une très, très, très belle mise en scène avec une actrice magnifique en France qui s'appelle Thérèse Roussel. Et qui, comme ce soir Anna, l'a joué en monologue, seule. Et c'est un texte quand même très littéraire, très écrit. Et c'est un texte difficile à jouer. Mais en même temps, depuis, il y a d'autres livres de moi qui ont été adaptés au théâtre et qui vont être adaptés au théâtre. Et je me rends compte qu'il y a peut-être quelque chose dans mon écriture...
Quelque chose de théâtral.
Oui, qui donne l'idée de la mise en scène théâtrale. Ça vient peut-être du fait que j'écris à haute voix, que je mets en bouche mes phrases. Non seulement je les travaille dans la forme, dans l'écriture, mais je les travaille aussi au son. Et ça me donne évidemment aujourd'hui l'envie d'écrire directement pour le théâtre. Et bien sûr.
C'est lié peut-être aussi au fait que vous étiez comédienne?
Oui, je pense que ça a joué un rôle. Alors, je n'ai pas été comédienne de métier. Hein. J'enseignais à l'université pendant 37 ans. Et puis, par ailleurs, comme je fréquentais beaucoup le milieu du cinéma en France, j'ai eu l'opportunité... de jouer dans une quinzaine de films, dont une grande série d'ailleurs en Allemagne. Et le métier de comédienne m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup. J'ai appris beaucoup pour l'écriture de ce métier de comédienne. Quand j'écris une scène, je la vois. Je fais toujours presque une mise en scène des situations. Je pourrais dire, quand j'écris une scène importante, je pourrais décrire la pièce, dire où est la fenêtre, la porte. Je vois les mouvements du personnage dans l'espace. J'ai une imagination très, très visuelle. C'est peut-être aussi pour ça que les textes se prêtent aussi au théâtre. C'est possible, ça.
Et depuis quand écrivez-vous, au fait?
Alors, j'écris depuis plus de 37 ans maintenant. Le tout premier texte a été un texte qui était en fait ma thèse d'université, qui est un texte que j'ai écrit sur les rapports du corps avec l'alimentation. Et ensuite, j'ai poursuivi un travail, soit avec des essais, soit à travers des nouvelles, soit à travers des romans ou des contes. Un travail où le corps est toujours présent. C'est ça qui m'intéresse dans ce qui peut aujourd'hui ressembler à une œuvre, à un tout en tout cas. C'est ces métamorphoses du corps à certains moments essentiels d'un parcours humain. Où évidemment l'amour est présent, la mort aussi, et tous les changements du corps et de l'âme qui interfèrent. Hein. Par exemple, la femme Coquelicot, c'est une femme qui a 70 ans. Elle est dans l'ennui, dans le gris de la vie de tous les jours, la quotidienneté. Et un jour, en buvant son thé le matin, elle se rend compte qu'elle n'a pas envie de thé. Elle a envie de café ce matin-là. Et son corps sait avant elle qu'il va être amoureux. Parce que l'envie de café, c'est une envie d'amour. C'est une envie d'autre chose. Voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est ces moments très, très précieux et délicats où l'âme et le corps se répondent, se questionnent, et où le corps est lui-même un langage de l'âme, en quelque sorte.
A zrazená. Zrazená, že on tady není. A ponížená, že já tu jsem. A to nemluvím vůbec o tom, že mám tady na stávání kávy. Ani nevím, který z nich je můj. Odcházím.
Avant la femme Coquelicot, j'ai écrit un autre roman qui n'a pas été lui monté en scène, sur scène, mais qui est qu'il faut lire en reflet, comme ça, en miroir avec la femme Coquelicot. Ça s'appelle La Dame en bleu, et c'est un éloge. Ce livre est un éloge, est également un éloge de la vieillesse, puisque c'est l'histoire d'une femme de 50 ans qui rencontre une vieille dame sur son chemin et qui a envie de devenir une vieille dame avant l'âge. Mmh. Pour échapper aux contraintes, aux obligations, à la violence de la rentabilité, de la performance, etc. Et c'est La Dame en bleu comme La Femme Coquelicot sont deux livres tête-bêche, en quelque sorte, qui portent tous les deux le même message de tolérance et de sagesse, parce que on deviendra tous vieux, de même qu'on mourra tous, et cette espèce de déni de la vieillesse et de la mort est un vrai drame pour une grande partie des populations qui vivent dans cette obsession justement du jeunisme absolu.
Voilà, et précisons encore que cet entretien réalisé par Magdalena Hrozinkova avec Noël Châtelet est une rediffusion de l'émission du 17 octobre 2010. Notre spécialiste sportif et linguistique, Guillaume Narguet, vous propose de plonger une fois de plus dans les arcanes de la langue tchèque qui n'a plus aucun secret pour lui. Bonne écoute d'une de vos rubriques favorites.
Le tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague.
Ahoj vám všem milovníkům češtiny Rádia Praha.
Vous le savez, l'adoption de l'euro n'est toujours pas d'actualité en République tchèque. D'abord parce que celle-ci ne remplit pas les conditions pour adopter la monnaie européenne, mais aussi et surtout parce qu'il n'existe pas de réelle volonté politique. Outre les raisons économiques qui prévalent, les Tchèques restent aussi très attachés à leur monnaie, la couronne.
Koruna.
Et c'est justement à ce mot que nous allons nous intéresser dans cette nouvelle émission. Comme son nom l'indique, la couronne tchèque,
Koruna česká,
est l'unité monétaire de la République tchèque. En 1993, année de la partition de la Tchécoslovaquie, la couronne tchèque, comme la couronne slovaque chez le voisin, a succédé à la couronne tchécoslovaque qui existait, elle, depuis 1918 et la fondation de la première République tchécoslovaque. Mais ce qui nous intéresse d'un point de vue linguistique est donc cette appellation de couronne. Pourquoi ce mot précisément a-t-il été choisi au lendemain de la Première Guerre mondiale pour désigner l'unité monétaire d'une Tchécoslovaquie qui venait juste d'apparaître sur la nouvelle carte du monde? La question est d'autant plus intéressante lorsque l'on sait que la couronne était déjà la monnaie existante sous l'Empire austro-hongrois. Il s'agissait alors de la couronne austro-hongroise qui, en 1892, avait remplacé le florin, aussi appelé gulden. Connaissant la volonté d'indépendance des Tchèques et des Slovaques à l'époque, on peut donc s'étonner qu'ils n'aient pas choisi une autre appellation pour leur monnaie. En fait, les Tchécoslovaques ont envisagé plusieurs appellations. C'est ainsi que les Tchécoslovaques auraient pu utiliser le franc tchécoslovaque,
Československý frank,
le faucon,
Sokol,
du nom du mouvement gymnique et patriotique, le lion,
lef,
le denier,
denar,
le hryvnia,
hryvna,
qui est aujourd'hui l'unité monétaire de l'Ukraine, le
rachin,
du nom du ministre des Finances de l'époque, ou encore, plus amusant encore, mais tout à fait véridique, la betterave. Finalement, la raison l'a emporté. Aucune de ces propositions n'a été retenue et pour préserver la continuité, la couronne, qui symbolisait pourtant l'empereur et Vienne, est restée la monnaie officielle du nouvel État tchécoslovaque. Presque paradoxalement, l'Autriche a, elle, abandonné sa monnaie impériale quelques années plus tard, en 1924, du fait de son importante dépréciation et de l'hyperinflation pour donner naissance au shilling. Mais revenons à cette couronne que les Tchèques aujourd'hui ne semblent pas disposés à abandonner pour l'euro. Intéressons-nous surtout aux façons pour le moins étranges qu'ont parfois les Tchèques de désigner une pièce de leur monnaie ou une somme d'argent en couronne. Ainsi, premier cas de figure, dans le langage populaire ou en argot, le chiffre 5
Petka
ne signifie pas 5 couronnes comme le voudrait la logique, mais 10 couronnes ou plus précisément une pièce de 10 couronnes. Il existe une raison à cela. En fait, ce mot
Petka
est apparu au XIXe siècle, c'est-à-dire lorsque la Bohême et la Moravie appartenaient encore à l'Empire austro-hongrois. Ce petit mot trouve donc son origine dans la réforme monétaire qui s'est tenue dans l'Empire très précisément en 1892, date importante puisqu'elle marque, comme mentionné précédemment, la naissance et l'arrivée sur le marché de la nouvelle monnaie qu'est la couronne. Avant cela, l'unité monétaire utilisée était ce que les Tchèques appelaient le
Zlaty,
un adjectif qui signifie « doré » ou « en or ». Ce mot
Zlaty
désignait alors le florin autrichien Gulden en allemand. Notons à ce propos que les pièces de monnaie et le florin étaient frappées en or à l'origine et que le mot
Zlaty
est par conséquent sans aucun doute la traduction tchèque de Gulden. Mais revenons à ce mot.
Petka.
En plus de rebaptiser la monnaie, la réforme de 1892 entraîna également une dévaluation puisque la valeur d'un florin était de 2 couronnes. Et c'est bien connu, les gens étant très conservateurs dans ces cas-là, comme ce fut le cas en France lors du passage de l'ancien au nouveau franc, puis du franc à l'euro, ils ont donc continué à calculer leur prix dans l'ancienne monnaie. Ainsi donc, une pièce de 2 couronnes restait un florin, aussi appelé
Zlatka,
et 10 couronnes se disait donc
Petka,
soit littéralement une pièce de 5. Et si vous vous posez la question légitime de savoir pourquoi seulement précisément 10 couronnes, sachez encore que c'est parce qu'avant la réforme, le billet d'une valeur de 5 florins était justement appelé
Petka.
Et depuis donc, l'usage est resté dans le langage populaire. Ce n'est pas tout cependant. Les Tchèques appellent aussi
kilo,
soit 1 kilo, les billets d'une valeur de 100 couronnes et
litre,
soit 1 litre, les billets d'une valeur de 1000 couronnes. Mais la déception, un peu à notre surprise, nous avons cette fois découvert qu'il n'existait aucune explication digne de ce nom sur l'origine de ces mots curieux. Reste donc encore à évoquer le million de couronnes, pour lesquels les Tchèques argotisants parlent de
melon,
soit un melon. Dans ce cas, on peut toutefois supposer qu'il en est ainsi du fait de la grande ressemblance phonétique qui existe entre les deux mots
million
et
melon.
Mais il ne s'agit là que d'une supposition, comme on peut supposer qu'il existe un autre rapport de taille, cette fois en l'occurrence de grande taille. On sait en effet que le mot
million,
comme le mot français million, est un dérivé de l'italien. La base est constituée du mot mille, auquel a été ajouté le suffixe one pour devenir milione et ainsi signifier littéralement un grand millier. Et le melon,
melon,
étant une plante dont le fruit de forme ronde est lui aussi de grande taille, assurément un des plus gros fruits comestibles que l'on connaisse, on peut imaginer que c'est donc pour cette raison que les Tchèques appellent
melon, million korun,
soit un melon pour 1 million de couronnes. Voilà, et c'est donc sur cette supposition, une de plus, que s'achève ce Tchèque du bout de la langue, consacré donc à la couronne tchèque. On se retrouve dans 2 semaines pour d'autres découvertes relatives à la langue tchèque. D'ici là, portez-vous du mieux possible.
Mějte se co nejlíp.
Portez le soleil en vous.
Slunce v duši.
Salut et à bientôt.
Zatím ahoj.
Et après ce Tchèque du bout de la langue, on passe à la littérature préparée pour vous par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Vous vous reposerez, vous rafraîchirez votre corps, vous calmerez vos nerfs, vous raffermirez votre santé. C'est par ces slogans que les habitants de Prague étaient attirés dans les auberges et les restaurants qui se multipliaient dans la capitale tchèque et ses environs à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Le phénomène des restaurants, dont la clientèle se recrutait parmi les randonneurs et amateurs d'excursions pragois, est un chapitre important de la vie sociale des habitants de la capitale au cours des deux derniers siècles. C'est aussi le sujet du livre sorti aux éditions NLN et que son auteur Tomáš Dvořák a intitulé « Les restaurants pour amateurs d'excursion de Prague ». C'est sans doute une des pages les plus agréables de la vie de nos ancêtres. Ils savaient jouir de la douceur de vivre dans des auberges et des restaurants qui bordaient les quais et les îles de la Vltava, qui agrémentaient les parcs publics et attiraient aussi les clients en dehors de la ville. Ils se rendaient dans la grande banlieue et plus loin dans les environs de Prague pour visiter ces établissements qui leur proposaient des boissons rafraîchissantes, des plats succulents et pas trop chers, et, à titre gratuit, la fraîcheur verte de la campagne tchèque. Ils étaient des milliers à se laisser séduire, surtout le dimanche, par cet appel irrésistible, par cette possibilité de sortir de la grisaille quotidienne et de quitter le dur pavé de la ville pour le moelleux de pelouse. Tomáš Dvořák, auteur du livre qui retrace ce chapitre de la vie des Pragois, prolonge la lignée des clients de ces établissements.
Je fais des excursions depuis toujours et je vais depuis longtemps au restaurant. Alors j'ai associé les deux choses. Nous avons eu au musée de la ville de Prague une exposition sur les cafés pragois et quand cette exposition touchait à la fin, M. Karel Šlechta, petit-fils d'un restaurateur pragois renommé, s'est adressé à moi. Il nous a proposé de mettre à notre disposition les documents de sa famille au cas où nous déciderions de faire une exposition sur les restaurants pour randonneurs. Ainsi, les choses se sont mises en place et nous avons permis de faire cette exposition.
La famille Šlechta possédait un restaurant célèbre dans le parc de Stromovka à Prague. C'est vers cet établissement que se dirigeaient les promeneurs du parc. C'est sous les châtaigniers qui l'entourent et les parasols de sa terrasse que se réunissait et se rafraîchissait en été la société élégante de Prague. C'est ici que le murmure des conversations se mêlait à la musique d'un orchestre jouant les airs à la mode. Les origines de l'édifice remontent au XVIIe siècle. Remanié dans le style historisant en 1855, il est entré en 1882 en possession de la famille Šlechta, qui en a fait le haut lieu de la bonne société de Prague. Sa renommée a gravement souffert de la nationalisation entreprise après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est une ruine endommagée par deux incendies qui attend cependant de renaître de ses cendres. Les travaux de restauration sont déjà en cours. Les Pragois aimaient aussi se rendre, entre autres, dans le parc de Hviezda, ancien domaine de chasse royale, entouré de plusieurs restaurants, ou dans la vallée de Charka, où la forêt et les rochers pittoresques créent un paysage romantique. Les hommes et les femmes du monde se donnaient également rendez-vous sur les terrasses de Barrandov, un ensemble de restaurants situés sur un rocher au-dessus de la Vltava. L'ensemble, ouvert en 1928, à proximité des studios de cinéma de Barrandov, dans la banlieue de Prague, est un chef-d'œuvre d'architecture fonctionnaliste. Tomáš Dvořák évoque ce restaurant recherché.
Barrandovská terasa byla skutečně velkorysým podnikem, takže se tam vešlo zhruba 3000 lidí na ten.
Les terrasses de Barrandov étaient une entreprise vraiment monumentale. La capacité des terrasses de café avoisinait les 3000 personnes. Et il faut y ajouter encore le restaurant français, le Trilobit Bar, des salons pour les clients préférant un cadre plus intime et encore une piscine. Tout cela formait un ensemble d'établissements de loisirs. Un sanglant de cette époque disait « en dehors de Prague et pourtant à Prague ».
Rekreační komplex, dobový slogan, velmi výstižný, zněl za Prahou a přece v Praze.
Le livre de Tomáš Dvořák a été publié parallèlement avec une exposition que le public a pu voir de septembre 2010 à mars 2011 au musée de la ville de Prague. L'ouvrage, qui réunit les documents de cette exposition, a permis à son auteur de cerner le phénomène des restaurants pour la clientèle de randonneurs.
Já jsem totiž chtěl vlastně ukázat, že přestože Pražané se vydávali na výlety.
Je voulais démontrer par mon livre que les Pragois se rendaient non seulement dans les parcs comme ceux de Zofín, de Letná, de Stramovka et de Petchin, mais qu'ils allaient aussi plus loin. Ils suivaient les cours d'eau des rivières Belunka, Sázava, Vltava, et en bateau, à vélo et plus tard en voiture. Dans les années 1920 et 1930, après le développement de la grande banlieue de Prague, les nouveaux habitants arrivaient, de nombreux nouveaux emplois ont donc été créés. En été, donc, Prague déversait des randonneurs dans ses environs. Fuir la chaleur suffocante de Prague, tel était le slogan de l'époque.
Bien que le titre du livre de Tomáš Dvořák laisse entendre qu'il sera question de restaurants pragois, les établissements qu'il évoque étaient situés parfois assez loin de la ville. L'auteur explique pourquoi il figure malgré tout dans son livre.
Souvent, des auberges locales ont été remaniées, élargies. Les villégiateurs pouvaient loger aussi chez l'habitant. Je pense donc qu'on peut trouver un restaurant pour randonneurs pragois, même à 50 km de Prague, car ces établissements ne pouvaient exister que grâce à la clientèle pragoise.
Le goût des clients de ces restaurants était parfois assez modeste. Ils dégustaient par exemple une tranche de pain avec du sandou, des saucisses, un goulash. Manger du pain beurré arrosé d'un verre de lait était chose courante. On buvait surtout de la bière, mais aussi des limonades, du jus de poire ou de l'ersatz de café. On voit donc que les goûts de la clientèle de ces établissements étaient assez différents de ceux des clients actuels. Et Tomáš Dvořák de rappeler que beaucoup de ces restaurants n'existent plus que sur les cartes postales.
Il n'y a pas beaucoup de restaurants de ce genre qui se sont conservés. C'est par exemple le restaurant Uchladu dans la ville de Zbraslav ou le restaurant Naletné à Prague. En ce qui concerne les établissements en dehors de la capitale, nous avons beaucoup collaboré avec le restaurant Unehujilu. C'est une entreprise familiale, un établissement qui a le grand avantage d'être tenu par les membres d'une même famille depuis 1900, qui s'intéresse beaucoup à son passé. Ses membres ont gardé jusqu'à nos jours les documents écrits et ont même conservé dans une grange une partie de l'équipement de leur restaurant.
C'est donc grâce aussi au restaurant Unehujilu, situé au bord du barrage de Slapy sur la Vltava, que Tomáš Dvořák et ses collaborateurs ont réussi à faire ressurgir du passé une période révolue de la restauration, de la gastronomie, des loisirs et de la vie sociale des Pragois.
C'est la fin de cette émission du samedi, préparée pour vous par Anna Kubishta. Évidemment, tous ces sujets, vous le savez, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, le www.radio.cz/fr. Ces sujets, vous les retrouvez en podcast et puis également en article retranscrit. Voilà, merci de votre fidélité. Bon vent, Ahoy.
Radio.